Alors, on va essayer de voir cette première partie ce soir.
Ça sera plutôt concernant l'intimité.
Et puis, vendredi prochain, la continuité de l'intimité qui nous emmène dans une sexualité épanouie.
Voilà un petit peu les deux thèmes que j'ai prévus cette année pour tout ce qui concerne les couples.
C'est important de... Bonsoir, ça. C'est important d'être enseigné sur la sexualité. Pourquoi ? Parce que si l'Église ne le fait pas, alors c'est le monde qui va le faire. Et quand on voit aujourd'hui tout ce qui se passe dans le monde, eh ben, on s'aperçoit qu'on est très, très, très éloigné de ce que le Seigneur avait prévu. Donc il est bon de connaître ce que le Seigneur a prévu pour pouvoir comparer avec ce qu'il nous propose, hein, et pouvoir voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il y a trois sortes de couples en général. Le premier couple, il est amoureux et il restera amoureux. Gloire à Dieu. Le deuxième couple, il est amoureux, mais il ne restera pas amoureux. Il va tout doucement aller vers ce que j'appelle un couple de colocataires. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu pour nous. Et puis malheureusement, il y a le troisième couple, et celui, il était amoureux, mais ils ont divorcé. Donc vous avez à peu près ces trois couples-là que vous allez retrouver dans la vie de tous les jours. Et qu'est-ce qui va faire que le couple va rester amoureux ou va aller vers la cohabitation ou va aller vers le divorce? C'est l'intimité. C'est la différence qui va marquer le couple. Un couple qui sait rester dans une intimité ne divorcera pas. Un couple qui sait entretenir l'intimité restera amoureux. Et donc, c'est ce qu'on va voir ce soir. On va voir tout ce qui contribue à enrichir l'intimité. Et c'est fondamental. Et on verra que la sexualité, elle découle de cette intimité. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on rencontre quelqu'un, on a un développement d'intimité qui se fait petit à petit. On se rend compte, on va parler d'un premier niveau de verbal, un premier niveau d'entretien, communication. On va parler tout simplement. Et puis, si on continue, on va plus loin, on va rencontrer une communion entre nous. Et ensuite, cette communion, si ça continue, elle ira vers l'intimité. Et l'intimité débouchera sur la sexualité. Donc, vous voyez, c'est très important de comprendre ça, parce que la sexualité est la finalité de ça. Donc, on est bien loin de ce qu'on rencontre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on passe de la communication à la sexualité. On fait un grand saut. Mais, malheureusement, c'est pas ce que le Seigneur avait prévu pour nous. Donc, il y a le phénomène de l'attachement et de l'intimité, c'est-à-dire comment deux cœurs, petit à petit, se rapprochent. Donc on a d'abord l'attraction, c'est deux cœurs qui sont attirés l'un vers l'autre. Et on va arriver aux fréquentations. Deux cœurs qui sont reliés maintenant ensemble. Il y a un lien émotionnel, une découverte mutuelle, une attraction accrue. Vous voyez que les cœurs commencent à bien communiquer. Ensuite, on va arriver aux fréquentations sérieuses. Le lien est rendu plus fort. Là, les cœurs commencent à s'attacher, d'accord ? Et s'il y a rupture, ça va faire mal. Donc on voit que là, on est arrivé dans les fréquentations, et en général, c'est l'époque des fiançailles, pour faire simplement. D'accord ? Donc on n'est pas encore dans le mariage, mais si on se sépare, évidemment, ben, ça fera mal. Et enfin, quatrièmement, on a l'engagement, alors les fiançailles, mais avec un engagement. Les deux cœurs sont très proches l'un de l'autre et les liens se tissent davantage. Ce que vous voyez là, c'est que les cœurs finissent par se rapprocher. Et on voit cette progression et que ça va finir par le mariage. Donc le mariage, deux cœurs ensemble, unis et en harmonie, et les deux cœurs se touchent. Donc voilà un petit peu le principe de l'attachement. Et
on voit une progression dans cet attachement. Ce temps que nous prenons pour nous attacher, il est fondamental. Il permet de construire notre amitié et d'avoir une relation équilibrée entre l'homme et la femme. Et c'est important de prendre ce temps pour mieux se connaître, ce qu'on appelle le temps de l'amitié. Bien se connaître pour pouvoir aller plus loin. Une relation équilibrée, ce n'est pas une relation où on est en emprise l'un avec l'autre. Il n'y a pas d'emprise. Il n'y a pas non plus de relation de codépendance. C'est des choses équilibrées. Et pour cela, Jésus doit toujours être en premier dans notre vie. Sinon, on va fabriquer des idoles. Et notamment, si on tombe amoureux, on peut mettre la personne avec qui on est tombé amoureux sur un piédestal. Et ça va devenir une idole. Ensuite, Jésus au milieu. Pourquoi ? Surtout au départ, parce que ça va être compliqué dans un premier temps de s'harmoniser. Ça prend du temps. Et donc, on a besoin vraiment de se référencer à Dieu. Et donc, j'appelle ça la corde à trois fils qui ne se rompt pas facilement. C'est dans Ecclésias 4:9. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud ? Bon, à La Réunion, on n'a peut-être pas trop ce problème. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. C'est important d'avoir en tête ce triangle. Il y a moi, il y a ma femme, mon mari, ça dépend qui est là, et puis il y a Dieu. Et le fait d'avoir cette corde à trois fils, et bien surtout au départ, quand on se cherche un peu, on a besoin de se découvrir, et le mariage va révéler beaucoup de dysfonctionnements chez l'un et chez l'autre, donc les premiers temps du mariage peuvent être très difficiles. Et donc, il faut avoir Dieu pour pouvoir, au lieu de s'en prendre à son mari ou à sa femme, d'être en communion avec Dieu pour que on puisse petit à petit mieux se comprendre. Un petit peu l'idée. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est un mystère, en réalité. C'est un mystère. S'attacher à sa femme, c'est une progression et après, on devient une seule chair. Alors, ça peut paraître compliqué. En réalité, notre mariage, il est comme un puzzle. Il est perpétuellement en construction. À la différence d'un puzzle qu'on achète dans le commerce, c'est Dieu qui a le dessin final. Parce que les pièces sont en cours d'usinage et c'est lui qui les façonne. Donc, notre mariage, c'est un petit peu comme un puzzle qu'on va faire. Et nous sommes usinés par le Seigneur de façon à ce que les deux puissent s'emboîter. D'accord ? Donc, il y a cette progression qui fait que le mariage, petit à petit, il est censé aller de mieux en mieux. Et on arrive à ce cœur à cœur où les deux sont ensemble, vraiment pour de vrai. Mais Dieu ne fera rien sans notre adhésion. Nous avons notre part à faire. Et cette part, l'Évangile nous le rappelle, c'est la mort à nous-mêmes. Et laisser toute la place à Dieu, le résultat sera notre transformation. Et c'est un puzzle unique. Il n'y a pas deux puzzles identiques. Pourquoi ? Parce que c'est le résultat de deux personnes. D'accord ? Donc, la pièce va être usinée de chaque côté en fonction de l'autre. C'est en fonction de la personne avec qui vous êtes que le puzzle va s'harmoniser. Est-ce que vous comprenez bien ça ? Donc, c'est important de bien se comprendre, de bien se connaître, de bien connaître les besoins de l'autre, parce que je vais m'adapter à l'autre. Et l'autre va s'adapter à moi. D'accord ? Donc, on est dans ce don de soi, où, au lieu que ça soit moi qui veux que ça se passe comme j'ai prévu, en réalité, non, on recherche le bien-être de l'autre, et l'autre recherche le bien-être de l'autre. C'est mutuel. Mais si on ne comprend pas ça, on n'a pas compris le mariage. Le mariage, c'est pas pour moi, le mariage, c'est pour l'autre. Oui, il faut dire amen. Le mariage, c'est pour l'autre. Parce que quand je rencontre des jeunes qui n'ont pas compris ça, je dis, est-ce que tu es sûr que tu veux te marier? Parce que le mariage, c'est pas je prends quelqu'un et je fais comme je veux. Non. Ça, c'est de l'égoïsme et ça ne marchera pas. Le mariage, c'est avant tout un engagement où tu t'engages à répondre du mieux que tu peux aux besoins de l'autre et c'est mutuel. Vice-versa. L'autre s'engage aussi à essayer de répondre du mieux qu'il peut à tes besoins. À travers les différents stades de notre attachement, l'un à l'autre, nous apprenons à nous connaître et nous développons une intimité. Mais l'intimité que l'on développe, elle est spirituelle, elle est émotionnelle, elle est physique. Ça prend du temps. Il faut que l'on apprenne à se connaître dans ces trois dimensions, corps, âme, et esprit. Donc c'est complètement différent de ce qu'on connaît dans le monde, parce que nous, on va prendre du temps pour se connaître et on s'investit à 100%, corps, âme et esprit. D'accord ? Et nous partageons nos besoins et c'est l'amour qui grandit entre nous qui participe à la guérison de nos blessures. En réalité, c'est très important de prendre du temps et de découvrir l'autre, puisque notre amitié qui va basculer en amour, hein, mais c'est là pour qu'on réponde aux besoins de l'autre, et donc c'est une idée de guérison. C'est pas pour augmenter les blessures. On arrive tous dans un couple avec des blessures, mais si le couple sert à augmenter les blessures, ben on n'a pas compris. Donc ce temps de découverte, hein, ce temps de découverte où on apprend à se connaître et on apprend à connaître les besoins de l'autre est fondamental pour pouvoir continuer le chemin ensemble. Et donc, tout est à l'œuvre. Le Saint-Esprit agit en nous et l'intimité que nous partageons désormais amène une confiance entre nous qui devient un agent guérisseur et alors je suis en pleine transformation. Amen. Hein. Il y a cette notion de confiance qui se développe, plus on est ensemble, plus on apprend à se connaître, plus on développe l'intimité. Et plus on développe l'intimité, plus on développe la confiance. Amen. Et c'est cette confiance qui va faire que quand on va arriver au mariage, eh ben, on aura déjà bien appris sur nous deux et on pourra aller facilement dans la sexualité, hein, la continuité, parce qu'on aura créé entre nous cette confiance, cette intimité. Et donc, ça sera tout naturellement qu'on se donnera l'un à l'autre, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Amen. Une transformation unique, parce qu'elle m'amène à me donner à l'autre afin de rencontrer ses besoins. Des besoins qui sont le fruit de son histoire. Notre couple devient cette personne unique qui donne du sens à notre relation et qui me renforce dans ma communion avec le Saint-Esprit parce que j'ai besoin de lui pour opérer toutes ces transformations. C'est le fruit de l'Esprit qui mature en moi. Amen. Donc on crée une troisième personne qui est notre couple et qui est une partie de moi et une partie de l'autre. Et c'est ce couple-là qui va lui grandir et à l'intérieur de ce couple-là, eh ben, je vais petit à petit ressentir l'amour de l'autre, les besoins. Alors évidemment, on le sait que c'est Dieu qui peut combler tous nos besoins, mais on peut quand même être un agent qui participe à la guérison de la personne. Amen. Hein, le fruit de l'esprit, on le connaît, c'est Galates 5, 22. Eh ben, petit à petit, hein, à travers l'amour, eh ben, il y a la joie d'être ensemble, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Donc, on a une projection dans le couple ben, qui n'a rien à voir avec ce que l'on voit habituellement dans le monde. On est dans cette optique qu'on a créé un couple On a créé comme une personne, et ce couple-là, eh ben, on va l'entretenir. On va faire que petit à petit, il va grandir. Et donc, c'est la transformation de l'être humain. Puisque je vais m'efforcer de répondre aux besoins de l'autre. Et vice-versa. Donc, on est loin d'une idée égoïste de la relation. Hein, parce que là, on comprend bien qu'on vit, et on vit aussi pour satisfaire l'autre. Et de sentir que l'autre fait tout pour nous, eh ben, on se sent aimé. On se sent aimé. C'est pas parfait, parce que la perfection n'existe pas, mais le fait de savoir que l'autre ne pense pas qu'à lui, mais qu'il fait tout ce qu'il peut pour me rendre heureux, hein, en sachant qu'il connaît mes besoins petit à petit, eh ben, on se sent aimé. La construction de notre couple, elle participe grandement à notre transformation. Même si nous ne l'avions pas imaginé comme ça. Notre couple en finit, notre couple veut en finir avec notre égoïsme. Parce que c'est ça qu'on doit combattre dans le couple, avant toute chose. Hein, c'est combattre notre égoïsme. Et l'égoïsme est tué dans le couple. Si on a bien compris ce que c'est que le couple, notre égoïsme n'a pas sa place dans le couple. Mais il faut que les deux jouent le jeu. On est d'accord ? Hein, les deux jouent le jeu. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui fait tout pour l'autre et puis l'autre qui en profite, quoi. Parce que ça ne va pas fonctionner. Ça s'appelle de l'abus. Hein ? Mais là, mutuellement, chacun apporte le maximum qu'il peut faire. Notre couple va en finir avec l'égoïsme, avec nos dysfonctionnements. Et là, il met à jour tout ce qui ne va pas en nous et qui était au fond de nos cœurs. Hein ? Parce que tant qu'on était seul, ben, on n'avait pas trop à se battre avec nous-mêmes. Bien sûr qu'on avait des dysfonctionnements. Mais en couple, ça change. Parce qu'en couple, on vit tous les jours ensemble. Et là, on ne peut pas cacher nos dysfonctionnements. Ils vont apparaître. Et là, il peut y avoir des tensions. Parce que ben là, on peut pas tricher. Hein. On a l'autre en face de nous et ça met une pression. Hein. Mais ce n'est pas grave. C'est de découvrir petit à petit ces dysfonctionnements et de travailler tous les deux ensemble. Plus que jamais, nous avons besoin de Jésus, de la corde à trois fils. Notre intimité est mise à rude épreuve. Et si nous ne voulons pas entrer dans une phase relationnelle compliquée, il va falloir appliquer le principe de la paille et la poutre. C'est-à-dire, c'est quoi ce principe? C'est-à-dire, Jésus a dit, au lieu de regarder ce qui ne va pas chez l'autre, regarde avant toute chose ce qui ne va pas chez toi. Et il nous le dit en plus, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup plus de choses qui ne vont pas chez toi que chez l'autre. On n'est pas toujours d'accord avec ça, mais en tout cas, c'est ce que Jésus nous dit. Il nous dit, arrête de regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin et regarde plutôt à ta poutre, il y a du boulot. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va faire la grande différence? Eh bien, maintenir notre temps de couple va se révéler indispensable si nous voulons continuer à développer notre intimité et à grandir ensemble. C'est-à-dire s'ajuster au fur et à mesure. Continuer à se laisser usiner, à se laisser transformer. Hein, obéir aux injonctions de Dieu qui nous invite à changer, qui nous invite à être transformés, ne pas être des rebelles. Et obéir. À laisser le Saint-Esprit usiner les pièces de notre puzzle. Ces temps de discussion que j'appelle, on va le voir tout de suite, ce que j'appelle le cœur à cœur, hein, pour ceux qui ont déjà assisté aux enseignements sur le mariage, vous savez combien j'insiste sur le cœur à cœur. Ces temps de discussion, de mise au point, hein, de communion, va nous amener à ouvrir de plus en plus nos cœurs. Il faut le voir, j'ai employé ce mot-là cette semaine, c'est tout un écosystème que l'on met en place. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. C'est petit à petit qu'on apprend à se faire confiance. Petit à petit qu'on apprend à se libérer, à libérer la parole, à mettre des mots sur nos émotions, sur ce qui nous arrive. Hein. Surtout chez les hommes, c'est compliqué. C'est plus rare chez les femmes. Mais chez les hommes, on rencontre beaucoup, alors c'est un mot qui n'existe peut-être pas dans le dictionnaire que j'utilise souvent,
Chez les hommes, on va beaucoup rencontrer de taiseux. Vous savez ce que c'est ? Les taiseux, ils se taisent. C'est le verbe se taire. Hein ? Et pourquoi ? Parce que ben, ils n'ont jamais appris, enfin, ils n'ont pas été dans une famille où on communiquait facilement et où on mettait des mots M-O-T sur des mots M-A-U-X. Et donc, ils ont appris à se débrouiller tout seuls. Ils ont vraiment le cœur orphelin. Mais la femme, qui en général, et là, ne me tuez pas, hein, c'est juste comme ça, hein, qui est un peu plus bavarde, et c'est sa nature, c'est pas mauvais, hein, bon, un peu plus bavarde, elle aime bien savoir ce qui se passe dans la tête de son gars. Et c'est normal. Donc elle lui tire les vers du nez, en quelque sorte. Mais lui, il résiste. Il veut pas. Et, il reste dans sa bulle, et c'est compliqué pour lui. Il répond par onomatopée, il fait oui, oui ou non. Mais ça, la discussion a du mal à prendre. Et c'est tout ça qui doit être brisé. Hein, parce qu'on a appris à fonctionner d'une certaine manière, on a appris à se protéger, on a appris à mettre des murailles autour de nous. Hein, mais là, on est avec notre femme. C'est fini. On crée la confiance. On crée l'intimité. Puisque dans la logique, tout ça, c'est communion qui donne l'intimité et qui amène à une vraie sexualité. D'accord ? Si on loupe quelque chose, la sexualité, elle ne sera pas épanouie. Parce que la sexualité, elle fait suite à cette intimité, à cet épanouissement, à ce lâcher prise où on est ensemble et on n'a pas honte d'être ensemble. Hein ? Adam et Ève étaient nus et n'avaient point honte. Et quand on parle de nudité, on le parle dans tous les termes de la vie. C'est pas seulement physiquement. Mais ils savaient se mettre à nu. Bon, le péché n'était pas encore entré dans le monde, c'était plus facile. Hein. Mais en réalité, pour nous, eh ben, c'est apprendre petit à petit à briser des choses, à casser des choses pour entrer en intimité avec l'autre. C'est tout un programme. Tout un programme. C'est un défi. Mais c'est important, parce que si on n'arrive pas à créer ça dans le cœur à cœur, on n'aura pas une véritable intimité. Et dans la sexualité, ça se verra. Il y aura de la gêne, on aura du mal à parler entre nous de sexualité, ça sera un tabou qui sera difficile à renverser, et donc finalement, le couple, ben, il sera un petit peu bancal, parce que comme on va le voir, la sexualité, c'est fondamental dans le couple. Si la sexualité est juste un petit apport de temps en temps, alors c'est qu'on n'a pas compris qu'est-ce que Dieu a voulu faire avec le mariage et la sexualité. Donc ces temps partagés vont permettre de se connaître en profondeur, de s'attacher puissamment à l'autre. Ces temps sont indispensables afin de mieux connaître nos besoins et de pouvoir y répondre. Ces temps partagés vont permettre de conserver le sens de notre relation, le sens de notre mariage. Et beaucoup de gens loupent cette étape-là, alors qu'elle est fondamentale. Hein, c'est, même si ce n'est pas facile, même s'il y a des habitudes à changer, mais ce temps où on se livre à l'autre, où on parle avec un cœur ouvert, est fondamental pour créer la confiance et l'intimité. Et là, je parle, on ouvre nos cœurs. On ne parle pas du travail, enfin on peut en parler comme ça au départ, mais on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour parler des autres. Parce que quand on a du mal avec l'intimité, c'est beaucoup plus facile de parler des autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est beaucoup plus facile de parler de ce qui se passe chez les autres que de parler de nous. Mais là, on est là pour parler de nous, et après c'est variable. On peut parler de ce qui s'est passé dans la semaine, on peut parler que ben, y a peut-être eu des moments de tension, on peut parler que ben, y a peut-être des choses que j'ai loupées, et puis on va petit à petit s'ajuster. Et petit à petit, on va arriver, alors je le dis maintenant, mais je l'ai peut-être prévu à plus loin, on va arriver à cette phrase qui est fondamentale dans le cœur à cœur et qui nous sert à aller plus loin, c'est « Chérie, qu'est-ce que je peux faire pour toi pour que tu sois mieux encore dans notre mariage, dans ce couple ?» et vice-versa. Fondamental. Et ça donne du sens à notre mariage. Ça permet d'être toujours en connexion et de donner du sens à notre mariage. Ça va? Non, ça va pas? Si, ça va. Là, il n'y a personne qui répond.
Le développement de l'intimité passe par des confessions de l'un envers l'autre.
On confesse ce qui nous arrive. On ouvre notre cœur. Et donc, la difficulté, c'est quoi?
Ben,
la difficulté, c'est qu'on a besoin de se rendre vulnérable. Et oui, il faut s'ouvrir. Donc, on se rend vulnérable et aussi
redevable.
Alors, c'est quoi la redevabilité? Ben, la redevabilité, c'est que on prend des engagements avec l'autre, comme par exemple, si la personne dit à l'autre, ben, chérie, moi, j'aimerais bien que tu sois un peu plus ça ou un peu plus comme ça. Tu vois? Mais en sachant qu'on ne peut pas changer la personne. C'est la personne qui, au pied de Jésus, demande à être transformée pour être usinée. Parce que je vais être usiné par rapport aux besoins de l'autre. Comprenez bien. Si c'était une autre personne, ben ça serait un autre usinage. La pièce serait transformée autrement pour rentrer dans l'autre. Mais là, c'est par rapport à mon mari, par rapport à ma femme, j'ai besoin d'être usiné pour que petit à petit, le puzzle s'emboîte. Donc, la redevabilité, ben c'est de temps en temps, on fait un point. Et on peut célébrer les points. Parce qu'on a des victoires. Merci Seigneur. On est transformé et on peut faire des compliments à l'autre en disant « Ah, dis donc, c'est super, maintenant tu fais ci ou maintenant tu fais ça. Avant, tu n'arrivais pas à le faire. C'est génial. Merci Seigneur. Hein? » Et donc, on a une redevabilité et on voit les progrès. Et du coup, on se sent aimé parce qu'on voit que l'autre a fait des progrès pour nous, pour moi. Et que c'est pour moi qu'il l'a fait. Et donc, ça veut dire qu'il m'aime. C'est une preuve d'amour. D'accord ? Et on est loin de l'égoïsme. On le fait pour l'autre. Vous vous rappelez du linge ? Linge, vous vous rappelez du linge ? Quand j'ai découvert qu'Erland était très attentionné à son linge, j'ai appris à regarder le linge. Chose qu'avant, je n'aurais jamais fait. Okay. Mais comme Erland était un peu omnubilé par le linge et que quand elle rentrait du travail, elle regardait sur la corde s'il avait plu ou pas plu, parce que alors j'ai découvert le linge, c'est toute une histoire le linge en fait. C'est que s'il pleut, le linge ne sèche pas et il pue, sans mauvais. Donc il faut que dès que c'est sec, il faut l'enlever. Comme je rentrais plus tôt, eh ben, je regardais sur le fil, la corde à linge, je disais, ah, elle a étendu du linge ce matin, ben, je vais aller voir si le linge est sec. Et si le linge était sec, je retirais le linge, je le pliais, je le rentrais. Et comme ça, quand elle rentrait du travail, hop, à regarder le linge, je disais, oh, il a été ramassé. Oh mon chéri, tu as ramassé le linge. Oh, extraordinaire. Ouais. Un exemple tout bête, hein, mais qui a fait que j'ai appris que le linge, c'était très important. Alors, ça aurait été quelqu'un d'autre. Ben, peut-être que le linge, elle s'en serait fiche. Et puis moi, je n'aurais pas fait ce travail-là. J'ai fait ce travail-là par rapport aux besoins d'Irlande. Vous voyez le principe? Hein, c'est une anecdote. Et c'est pour vous expliquer le principe de la transformation. La transformation par rapport aux besoins de la personne avec qui on est.
Il y a la manière et la forme de dire les choses aussi.
Ah oui, on a beaucoup de progrès à faire.
Transformer en vinaigre, tu n'as pas fait si tu n'as pas d'accord.
Bien sûr qu'il nous faut beaucoup de compassion, parce que les deux ont besoin d'être usinés. Hein, c'est pas simplement un qui est usiné, puis l'autre qui dit, moi je suis parfait, toi tu as vraiment besoin d'être usiné. Hein, non, en réalité, les deux ont besoin d'être usinés. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de la poutre et de la paille. Hein, parce qu'on doit travailler sur soi. Et le cœur à cœur permet de mettre à jour nos besoins, à condition qu'on s'ouvre. Vous voyez, tout ça,
c'est un écosystème affectif, concret. Hein, si on fait du cœur à cœur, si on s'ouvre, on va ouvrir les besoins. Et donc, moi, je vais comprendre ce que tu me dis.
Ou en tout cas, si je ne comprends pas bien, je te demander de répéter. Que quelquefois, la communication entre l'homme et la femme est un peu compliquée. Donc, quelquefois, on est obligé de dire, attends, je ne comprends pas trop là ce que tu me dis. Donc là aussi, il ne faut pas se moquer du gars. Il n'a pas toujours les mêmes compétences que la femme. Il faut être patient. Hein, faut être patient avec lui.
Mais il va finir par comprendre. Et donc, s'il comprend, ben, il sait comment s'améliorer. Il sait ce qu'il doit faire. Donc, se rendre vulnérable et être redevable.
Un couple privé de temps passé ensemble est comme une plante privée d'eau. Certaines plantes survivent plus longtemps, mais finalement, toutes s'étiolent et meurent. Ouais. Ça, c'est pour imaginer l'importance du cœur à cœur. Qu'est-ce qui va faire qu'on va rester amoureux? Qu'est-ce qui va faire qu'on va être bien ensemble et que le couple va continuer de grandir? Eh bien, c'est l'entretien de ce cœur à cœur, où on parle de nous. Si on ne le fait pas, c'est comme une plante qui n'est pas arrosée. Elle va mourir, petit à petit. Et donc, on va le voir tout à l'heure, ben, si le couple meurt, hein, vous voyez là ici, et pourtant, le couple, c'est la fondation sur laquelle nous bâtissons notre famille. Si le temps pour le couple est négligé, c'est toute la structure familiale qui est en danger. Si on ne soigne pas notre couple, eh ben, ça va prendre un peu de temps, mais ça va se détériorer petit à petit. Et à un moment donné, si le couple va mal, ben, c'est toute la famille qui va mal. Les enfants vont en porter les conséquences. Le couple, soit il va partir en colocation, soit il va divorcer. Vous voyez, vous commencez à percuter l'importance du cœur à cœur, l'importance de prendre du temps pour soi. Notre couple est important. C'est là-dessus qu'est fondée notre famille. Donc si on veut que notre famille soit une famille soudée, que les enfants soient équilibrés, que les enfants voient leurs parents s'aimer, et qu'ils aient un beau modèle, il nous faut entretenir ce cœur à cœur. Et plus développer ce cœur à cœur. Être transparent, être honnête, être vulnérable. La confiance qu'on a entre nous, hein, pour déboucher sur de l'intimité. Et on verra que quand on est arrivé à ce niveau-là de confiance et d'intimité, la sexualité, elle découle. Ne pas avoir su conserver du temps pour son couple est l'erreur que beaucoup de couples ont fait malheureusement. Et petit à petit, le couple a perdu de son intensité amoureuse. Les incompréhensions, ils se sont installés de plus en plus. La communication a laissé place à ce que j'appelle la communication logistique. Vous connaissez ? Communication logistique. Hein ? Qui c'est qui va chercher les enfants ? Ah, ce soir, tu fais les courses ? Ah, on est dans la logistique. Okay. Et la routine s'est installée. Les conjoints se sont sentis délaissés par l'autre. On n'a plus cette proximité, on n'a plus ce désir d'apporter le maximum à l'autre. On n'a plus ce temps-là. Donc on se sent moins aimé et de plus en plus étranger. Un fossé invisible se forme petit à petit. Le passage du couple amoureux vers un couple de colocataires est alors devenu inéluctable. Ce que vous allez voir autour de vous, beaucoup de couples, hein, qui, si vous les connaissez dans leur intimité, ils vivent comme des colocataires. Ils sont sur le même toit, mais il n'y a plus cet élan amoureux, ils n'ont pas su entretenir la flamme qu'il y avait au départ. Et tout ça parce qu'ils ont négligé le temps à deux. On verra ça plus tard. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Mais on donne du temps à ce qui a de la valeur. Et notre couple a de la valeur. Et donc c'est fondamental dans ce monde de fous, dans ce monde où on cherche le temps, c'est important de garder du temps pour notre couple. Le phénomène que nous observons le plus souvent, c'est qu'à l'arrivée des enfants, l'attention est portée sur les enfants et petit à petit absorbe le couple. Ça, c'est le phénomène le plus commun. Le temps et la fatigue sont bien souvent des facteurs aggravants, si ce n'est les facteurs responsables de cette mort à petit feu du couple. Ajoutez à cela une tiédeur dans notre relation avec le Seigneur,
qui souvent a eu comme conséquence la mise en stand-by de notre transformation et de notre croissance spirituelle. Et vous avez un cocktail. Au lieu de progresser dans le don de soi, chacun a préféré camper sur ses positions et a accepté une certaine fatalité, laissant place à un début de frustration et d'amertume où nous voyons beaucoup plus les défauts de l'autre plutôt que ses qualités. C'est comme ça que ça évolue. Et nous regardons de plus en plus à nos besoins insatisfaits plutôt qu'aux besoins de l'autre. La Bible dit que faute de connaissance, mon peuple périt. Nous pourrions dire ici, faute de connaissance, mon couple périt. Vous voyez comment ça se passe ? On n'est plus satisfait, on n'y trouve plus son compte. En fait, on est en train de perdre le sens de notre relation, le sens de notre mariage. Et on laisse faire, mais c'est pas franco, c'est lancinant. Ça prend place tout doucement. C'est simplement qu'on n'a plus le temps de se parler, on n'a plus le temps de dire les choses qu'on aimerait dire. On se sent négligé. Hein. Et puis on commence à voir tous les défauts chez l'autre, espèce d'égoïste, pense qu'à lui. On commence à regarder à tout ce qui ne va pas. Et donc on est un peu frustré. Alors ça va se sentir dans les humeurs, ça va se sentir dans la manière de se parler. Oui, tout ça commence à partir en live. Vous le ressentez ? Pas chez vous, hein, évidemment. Chez les autres. Les bienfaits indispensables du cœur à cœur.
Vous allez voir que le cœur à cœur, c'est extraordinaire.
Donc, la mise à part de temps pour le couple, ça va aider à rester amoureux.
Même s'il y a des enfants.
Hein, même s'il y a des enfants. Rester amoureux, c'est fondamental. C'est le couple. Notre couple, on ne s'est pas marié pour dire on va faire un couple de colocataires. Hein. On ne s'est pas marié pour dire oh chérie, tu vas voir tous les jours, je vais te rappeler tes défauts. Tous les jours, je vais dire tout ce qui ne va pas chez toi. T'sais, mais ça va être génial la vie à deux. Je ne pense pas qu'on se soit marié pour ça. Donc on s'est marié parce que dans notre tête, on a pensé qu'on allait être amoureux pour toute la vie. Sauf que ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait parce que chacun. Il met du sien. Comme j'ai expliqué cette semaine à un couple, je disais, c'est comme si qu'on avait reçu un bout de jardin, un bout de terre. Chez moi, on dit un lopin de terre, mais bon, je crois que ça n'existe pas partout. Un bout de jardin, comme ça. Et puis, chacun travaille dans le jardin. Là, pas un qui est en train de boire la petite bière et puis qui dit « Alors, chérie, ça se déserte tout seul ?» Non. C'est tous les deux qui travaillent dans le jardin pour faire un beau jardin. Là, le cœur à cœur va te permettre évidemment de se connaître de mieux en mieux hein, et de toujours rester connecté au fil du temps, de décennie en décennie. Et j'ai mis grille de lecture parce que, vous savez, on a chacun notre grille de lecture. Notre grille de lecture, c'est notre façon de voir les choses, notre façon d'interpréter les choses. C'est ça la grille de lecture. Et elle est formée bah, de notre famille, de l'éducation qu'on a reçue, un peu d'hérédité aussi, de notre histoire, des circonstances de la vie, tout ça fait qu'on interprète les choses d'une certaine manière. Et donc, quand on se met ensemble, on croit qu'on se connaît, mais en fait, on ne se connaît pas. Donc, on va se découvrir au fur et à mesure. Et on s'aperçoit qu'on n'a pas la même manière de voir les choses. Ça, c'est bizarre. On ne pense pas comme moi.
Excuse-moi, Bertrand, mais aussi, entre femme et homme,
oui,
c'est pas la même grille de lecture.
Bien sûr. Bien sûr. Ah oui, tu crois que c'est le moment ? Elle pense à moi. C'est mes besoins. Et donc, eh ben, le cœur à cœur va beaucoup aider à mettre à jour des quiproquos, mettre à jour des façons de parler. Par exemple, entre moi et Erland, on a pris du temps, parce que moi, Zoreille, et elle, Malbarez, on s'est aperçu qu'il y a des mots qui veulent pas dire la même chose. Le même mot que chez moi en Normandie, ce mot, il veut dire ça. Et qu'ici, dans sa famille, le mot, il veut dire ça. Rien que de culture à culture, on se découvre. Alors, quand c'est pas mis à jour, ben moi, je l'interprète comme ça, et elle l'interprète comme une insulte. Mais moi, je sais pas que j'ai dit une insulte, moi, parce que chez moi, c'est pas une insulte. Hein? Donc, non, mais ça rien. Et donc, on apprend petit à petit à mettre ça à jour et donc on évite de garder des choses frustrées ou des blessures intérieures. Non, chaque semaine, parce que le cœur à cœur, c'est au minimum une fois par semaine, eh ben, on met à jour les choses qui se sont passées dans la semaine. Ça peut être aussi avec les enfants, qu'on a mal... Voilà, on n'est pas d'accord, ça s'est fait devant les enfants, ça n'aurait pas dû se faire devant les enfants. Ben, si on ne prend pas ce temps de cœur à cœur, c'est pas entre deux portes qu'on va régler le problème. Hein, c'est pas vite fait, comme ça, on en parle deux mots. Non, il faut prendre du temps pour bien construire notre relation. Donc, de se connaître de mieux en mieux et de toujours rester connecté au fil du temps, donc de décennie en décennie. Pourquoi j'ai mis de décennie en décennie? Parce que la personne à 20 ans n'est pas la même qu'à 30 ans, n'est pas la même qu'à 40 ans. Si on reste connecté, on garde en ligne de mire nos besoins qui évoluent et on s'adapte à nos besoins et aux besoins de l'autre. Hein? Et puis, on ne crée pas de fossé. Ce qui se passe, c'est que les gens, ils rentrent sans vraiment en prendre conscience dans un couple de colocataires. Et puis, quand les enfants s'en vont, donc ils ont 45, 50 ans, il n'y a plus d'enfants à la maison, ils se retrouvent tous les deux, et là, ils découvrent que ce sont deux étrangers. Parce que ça fait tellement longtemps qu'ils ne partagent plus rien, qu'en fait, de se retrouver tout seuls, ils n'ont plus rien à se dire. Ils ne se connaissent plus. Ils vont au resto, et heureusement, on a qu'il y a les smartphones maintenant, parce qu'au moins, on regarde chacun, on scrolle. Hein, on scrolle. C'est ça que vous voyez. Même des jeunes couples, hein, des jeunes couples qui vont au restaurant, et les trois quarts du temps du restaurant, c'est pour regarder le téléphone. Incroyable. Et ils sont jeunes. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était en vacances à Maurice, et je disais à l'autre, mais regarde ce couple-là, ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Chacun avait son téléphone, et chacun était en train de scroller sur son téléphone. Et peut-être, peut-être. Mais oui, parce qu'on a découvert chez nous que nos petits-enfants, ils se mettent dans le canapé, et puis ils sont l'un à côté de l'autre, et ils s'envoient des messages. Incroyable. Ils parlent pas, ils sont l'un à côté de l'autre. Ils se parlent pas, j'ai dit, ils se parlent jamais. Et non, ils parlent pas. Ils envoient des messages. C'est fou. Dans quel monde nous sommes? Ensuite, les fameux mécanismes de défense. Hein, c'est que petit à petit, en étant ensemble, on va développer la confiance entre nous. Hein, c'est-à-dire ne pas avoir peur d'être jugé par l'autre, d'enlever la honte, de pouvoir enlever nos mécanismes de défense. Les mécanismes de défense, c'est des mécanismes qu'on a mis en place suite à des blessures de la vie qu'on a vécues depuis étant petit. Et on a appris à se protéger. Donc on a créé des systèmes de défense. Mais le système de défense, il a un inconvénient, c'est qu'il ne nous rend pas vulnérables, parce qu'au contraire, il est là pour nous protéger. Donc on garde nos systèmes de défense plus ou moins inconscients et on ne crée pas de vulnérabilité. On ne s'ouvre pas à l'autre. Donc, il faut que ça soit mis à jour. Et ça, c'est par le développement de la confiance entre nous. On n'a pas peur d'être jugé. On enlève la honte. On est comme on est. Hein? Et petit à petit, ben, on apprend avec l'autre à pouvoir dire qui on est réellement, comment on fonctionne. Et on n'a pas honte. Hein? Et on n'a pas peur d'être jugé. S'il n'y a pas ça, ben, évidemment que le niveau d'intimité, il sera bloqué à un moment. On ne pourra pas aller plus loin. Et ce n'est pas bon pour la sexualité. Donc, il faut avoir conscience de ça. Et petit à petit, ben vous allez voir que c'est chouette d'avoir confiance dans l'autre, de pouvoir se parler les deux et de sentir que notre intimité grandit. On est en train de donner du sens à notre mariage. Alors, on va apprendre aussi à se protéger des offenses, c'est-à-dire d'éliminer au fur et à mesure les quiproquos, les frustrations, les petites blessures suite à des paroles, des actes, des comportements qui se seraient produits à notre insu dans la semaine. Quelquefois, on blesse l'autre et on ne s'en est même pas rendu compte. Mais là, c'est l'occasion de dire, tiens, chérie, on peut revenir 5 minutes sur ce qui s'est passé l'autre jour quand on a reçu des gens à la maison. Là, quand tu as dit ça,
franchement, j'étais mal. Ah ouais. Ah, j'avais pas percuté. Excuse-moi, à l'avenir, je vais faire attention. Petite chose simple,
hein, pour s'accorder, hein, et pour pas rentrer dans des offenses où, si on parle pas, ben, on garde l'offense, en réalité. Et ça, ça arrive souvent dans les couples. Hein, c'est simple. Vous voyez la personne, elle est pas bien. Et vous lui dites, ça va, chérie? Ouais, ouais, ça va. Ah bon, t'es sûr? Je dirais que ça va pas. Si, si, ça va, ça va. En fait, ça va pas du tout. Et seulement, elle est blessée. Donc, elle n'arrive pas à juste dire ce qui se passe. Et puis, peut-être que le moment n'est pas bien choisi aussi. Il peut y avoir des enfants, il peut y avoir la fatigue, enfin, il peut y avoir un tas de choses, quoi. Et c'est important que dans ces moments de cœur à cœur, ben, on regarde si tout va bien, tout simplement. Maintenir un climat de paix entre nous, en mettant à jour nos petits différends, nos incompréhensions, nos frustrations, va grandement faciliter l'envie de s'unir, surtout chez la femme. Ça va protéger nos relations sexuelles. Parce que l'homme et la femme sont très différents à ce niveau-là. Pour l'homme, il n'a pas forcément d'avoir besoin d'un environnement sécure, protégé, où les choses vont bien. Mais la femme, c'est différent. La femme, elle a besoin de se sentir en sécurité. Elle a besoin de se sentir en confiance. Elle a besoin de se sentir aimée. Ouais. Donc, c'est important de créer ce climat-là et toutes les semaines de pouvoir se dire tout ça. Ben, évidemment que petit à petit, on élimine la plupart des choses, des incompréhensions. Et ça va grandement faciliter la relation sexuelle parce que la femme va se sentir aimée, va se sentir dans un environnement sécurisé et donc en confiance. Et donc, elle va se donner beaucoup plus facilement. Mais il faut que les hommes l'entendent. Parce que les hommes ne fonctionnent pas comme ça. Il n'y a pas tous ces besoins. Vous comprenez?
Donc, de répondre de plus en plus aux besoins de l'autre en se posant mutuellement la question suivante, celle que j'ai dit tout à l'heure. Qu'aimerais-tu voir changer en moi pour que tu sois encore plus heureuse dans notre couple? Est-ce que vous allez déjà poser cette question-là à votre cher et tendre? Incroyable, hein? On ne pense pas à poser ce genre de questions. Ça vous est déjà arrivé?
Oui, toi, tu me l'as posé.
Oui, moi, mais parce que c'est normal, j'enseigne. Heureusement, je le mets en application. Mais est-ce qu'on pense à dire, chérie, qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi, que je change, pour que tu sois encore mieux dans notre couple? Ouais? Ça a été dit? Bravo. Répondre aux besoins de l'autre par le don de soi. C'est ça l'essence du mariage. Hein, si on n'a pas compris ce que c'est que l'essence du mariage, si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris ce que c'est que le mariage pour le Seigneur. Ça va? Ça va plus.
Allons un peu plus loin. Prendre du temps pour notre couple, c'est une décision délibérée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne prend pas une décision délibérée de faire un rendez-vous galant, amoureux, vous savez quoi? Ça n'arrivera jamais. Il n'y aura que l'intention. C'est un peu le style, vous rencontrez quelqu'un, puis vous lui dites, un de ces jours, il faut qu'on se fasse une bouffe. Vous êtes certain que la bouffe, elle n'aura jamais lieu. Par contre, si vous lui dites, oh, ça me fait plaisir de te voir. Oh, dis donc, et lundi, est-ce que lundi, tu serais libre? Voilà. Là, c'est différent. Vous savez, c'est quoi la différence? Il y a un mot. L'engagement. L'engagement. Parce que je dis lundi, je m'engage. Mais c'est ça la différence. C'est que si on programme un moment, alors il peut toujours y avoir un problème, mais si on programme un moment, on s'est engagé, toi et moi, à être ensemble telle soirée, telle soirée. Et le but du jeu, on le verra un petit peu plus loin, le but du jeu, c'est que être ensemble, c'est récréatif. Être ensemble, c'est du plaisir. Hein? C'est pas ma liste de reproches Tu vois, ah, vendredi, on est ensemble, t'en bouge pas. Alors, il y a ça, 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 ça. Parce que ça, il y aura un rendez-vous, il n'y en aura pas deux. L'autre va dire, t'es Bertrand, il a dit des conneries, mais alors, on a terminé pour moi, c'est fini. Non, il faut que ça soit récréatif, il faut qu'on ait envie de partager du temps avec sa femme. C'est pour ça que moi, je l'enseigne déjà à ceux, la préparation au mariage, je l'enseigne déjà maintenant, parce qu'il faut pas lâcher le morceau. Parce que la plupart du temps, quand les couples viennent me voir, ça fait longtemps qu'ils ont lâché tout ça. Il faut reprendre des bonnes habitudes, c'est pas facile. Parce que si vous n'avez pas fait ça pendant 15 ans, ben, il y a du passif. Il y a du passif. Et vous savez comment ça va se passer ? Quand ça va prendre une bonne tournure à table, il y en a un des deux qui va dire, ben, tu vois, ça fait 15 ans que je te dis ça. Ça fait 15 ans que je te demande ça, et puis regarde, il a fallu attendre 15 ans. Il y a toute la frustration qui ressort, il y a toute l'amertume qui ressort, et là, l'autre, il sait, bon, on va peut-être prendre l'addition, on va peut-être y aller. Il est mal, le gars. Ou la femme. Donc, c'est une décision délibérée. Alors, ça veut dire la nécessité de programmer ce temps. D'abord, il faut programmer ce temps parce qu'on est dans un monde de fous et que si on ne programme pas, ça n'arrive pas. Et il faut le protéger. Parce qu'il y aura toujours des choses qui vont arriver au dernier moment pour dire, on ne peut pas. Ça sera la semaine prochaine. Et puis la semaine prochaine, ça sera... on ne peut pas. Donc la semaine prochaine. Et puis un mois est passé et puis on n'a même pas eu de cœur à cœur. C'est là qu'il faut prendre conscience de tout ce que je dis. Tu vois, et que notre couple, c'est important. C'est l'avenir de nos enfants. C'est l'avenir de notre mariage. C'est même notre bonheur personnel. Hein, parce que quand on divorce, croyez-moi que c'est pas par plaisir. Hein, ça fait mal. Hein, parce que les cœurs sont attachés, hein, qu'on le veuille ou non. Hein, et que quand on déchire... Souvent, je donne l'image de deux feuilles qui sont collées. Hein, et puis là, c'est le divorce, il faut décoller les deux feuilles. Mais ça ne se décolle pas, ça se déchire. Donc c'est très, très complexe. J'ai perdu. Hop. Donc il faut le protéger. Donc d'abord, le programmer. Définir un jour et une heure dans la semaine. Puis être inventif. Ça peut être un resto, ça peut être un ciné, ça peut être une balade sur le front de mer, une randonnée. Bref, un moment, tous les deux, pour nous deux. Un moment, tous les deux, pour nous deux. D'accord ? On reste ensemble, on prend du plaisir à être ensemble, on reste amoureux, et ben on garde le sens, on ne s'est pas trompé, on ne s'est pas marié au hasard, on aime être ensemble. Et on passe du temps ensemble. Donc, on entretient le goût d'être ensemble. Pas beaucoup d'amen, c'est pas grave, je vais continuer quand même. Vous n'allez pas m'arrêter. C'est un moment de plaisir, okay, le plaisir renouvelé d'être ensemble, un moment récréatif pour le couple, une pause où nous arrêtons le tourbillon de la vie pour souffler un instant. Il n'y a pas le boulot, il n'y a pas les enfants, il y a juste nous deux. Amen. Il n'y a que moi qui est content de ça. Amen. Se donner le droit, ça aussi, écoutez bien, parce qu'il y a plein de parents qui culpabilisent. Se donner le droit de prendre du temps pour notre couple. T'as le droit de prendre du temps pour ton couple. Non seulement t'as le droit, mais t'as plutôt intérêt. Pour tout le monde, pour toi, pour ton mari, pour tes enfants, t'as intérêt à prendre du temps pour ton couple. Et surtout, conserver du sens à notre union. Pas seulement rester ensemble par habitude, soit rester ensemble pour les enfants, ou alors pour les biens matériels, ou alors pour un certain paraître. Non, pour rester amoureux. Amen. David, amen. Alléluia. Il est nécessaire de se donner les moyens de mettre cela en place. Et surtout, ne pas penser que cela est impossible. Je vous donne un témoignage d'une famille qui a eu 6 enfants. Elle témoignait à une soirée comme celle-là. Et elle disait, ce qui a sauvé notre famille, c'est qu'on a toujours gardé le cœur à cœur. 6 enfants.
Mais s'il n'y avait pas eu le cœur à cœur, avec 6 enfants, je pense que le couple aurait pris l'eau petit à petit. Et là, elle dit, c'est le cœur à cœur qui nous a sauvés. Parce que le cœur à cœur, ça nous fortifie. Le cœur à cœur, on est ensemble, on regarde à notre vie, on regarde à notre couple, on regarde à notre mariage, on se fortifie. Tu vois ? Et on affronte les difficultés à deux, pas séparément. On est fort ensemble. Et il faut le protéger. Évidemment, il faut le protéger. Hein, c'est le choix. Soit on est tous les deux, ou soit c'est... Ah, c'est les copains. Ah, les copains. Ah, les amis. Les copains. Il faut le protéger. Parce que les copains vont appeler. Ou la famille va appeler. Et vous faites quoi, vendredi ? C'est important hein, d'être là vendredi. Ah non. Vendredi, j'ai déjà rendez-vous. Ah bon ? T'as déjà rendez-vous avec qui ? Avec ma femme. Oh, déconne. Tu viens à la maison avec ta femme et puis c'est bon, quoi. Hein ? Non. Non, non. C'est important. Il faut le mettre en priorité par rapport à d'autres activités. Les copains, ça sera une autre fois. La famille, mais ça sera une autre fois. Ce soir, j'ai rendez-vous avec ma femme. Et quand je vais voir ma femme, je dis, il y a lui qui m'a demandé, il y a lui qui m'a demandé. Mais non, c'est toi. Oh, alléluia. Pour le protéger des interruptions, le téléphone, la famille, attention avec la fille qui est des fois avec sa maman pendant une heure au téléphone, et le gars il s'impatiente, il dit mais alors quand est-ce qu'on y va? C'est fini ou pas? J'arrive, j'arrive. Pas énervé le gars, il n'a peut-être pas trop de patience encore, le fruit d'esprit n'est peut-être pas arrivé à maturité. Faut y aller mollo. En cas d'imprévu, prévenir notre conjoint pour décider ensemble. S'il y a un imprévu, on appelle le conjoint pour dire, bon, on a un problème là. Ce soir, c'était notre rendez-vous, mais regarde, il y a ça. On ne prend pas tout seul la décision. On prend à deux. Ok ? C'est important. Hein, chérie, pour le resto, ce soir, ça va être un peu compliqué. Ah ben oui, je crois que ça va être compliqué pour lui. Prendre soin de l'autre, c'est se sentir écouté, compris et aimé. Vous voyez comment c'est important pour de se sentir aimé. Se sentir aimé, ça commence par quoi ? L'écoute. L'écoute. On est dans un siècle où on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'écouter. On ne prend pas le temps. Il y a quelqu'un qui veut te parler, tu dis excuse-moi, on va voir ça après parce que là, je suis pressé. Je suis pressé. C'est le mot à la mode, ça. Hein. Je suis pressé. On n'a pas le temps. C'est vrai, on n'a pas le temps. On est pressé de partout. C'est le cas de le dire. Pressé comme un citron. Pressé au travail. Pressé, il faut aller chercher les enfants à l'école. Pressé, faire les leçons. Pressé, t'arrives le soir. Donc, prendre du temps ensemble, c'est important de se sentir écouté, compris et aimé. Une communication basée sur l'horizontalité et non pas sur la verticalité. Il n'y a pas de dominant-dominé. Chacun doit se sentir égal à égal. Ça aussi, c'est important. Vous connaissez le verset préféré des épouses ? Je vous le dis. Instruis ton mari dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est le verset pour les enfants. L'acceptation de l'autre. Le prélude au changement, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est. Pour certains, pour certaines, ça a mis du temps et ils ont fini par comprendre. Est-ce que vous avez déjà, mesdames, essayé de changer votre mari? Si vous avez essayé, vous avez dû faire quelque chose. On ne change pas. On ne change pas l'autre. On l'accepte tel qu'il est. Et après, c'est dans l'amour, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, que le changement se fait. Il se fait par adhésion, dans l'amour. Il ne se fait pas par menace ou par... Hey, si tu changes pas, attention, ça ne va pas bien se passer. Ça ne se passe pas bien, ça ne marche pas. La tendance dans les couples, c'est de
vouloir changer l'autre. Ça reste une illusion. Quand vous essayez de changer quelqu'un, vous travaillez dans ses résistances. Comprenez ? Plus vous insistez, plus il se braque. Parce que vous participez à ses résistances. À l'inverse, plus vous relâchez, plus la personne est libre de travailler sur elle-même. Cela peut paraître contre-intuitif, mais c'est pourtant comme cela que ça fonctionne. D'ailleurs, soit dit en passant, Dieu n'a pas attendu qu'on soit parfait pour nous accepter. Ensuite,
bien écouter l'autre. Ça, c'est des habitudes qu'on doit prendre ou qu'on doit perdre. Ça dépend comment on le voit. C'est qu'on a tendance à vouloir parler, couper la parole à l'autre. Surtout quand on n'est pas d'accord. Couper la parole. Il faut bien écouter l'autre. Et on doit amener un climat de sérénité. Un climat de récréatif, c'est un climat où on se sent bien. On n'est pas là pour se disputer. On n'est pas des ennemis. On est là pour trouver des solutions. À chaque problème, il y a des solutions. Proverbe 18-13 dit ceci, « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. » Et Proverbe, c'est la sagesse de Salomon.
Bien souvent, la personne n'écoute pas parce qu'elle est en train de préparer sa défense. Le défi que nous avons, c'est d'apprendre à écouter l'autre. Chercher à comprendre plus qu'à être compris. Au lieu de toujours faire valoir notre position, questionner l'autre sur sa position. Je veux essayer de te comprendre parce que j'arrive pas à saisir ton idée, ta position. Faut pas oublier que on a été fait différents. L'homme et la femme sont différents. La grille de lecture est différente. Donc on a besoin de prendre du temps pour se comprendre. Et on n'est pas des adversaires, on est des partenaires. Parfois, à cause des blessures du passé, on se sent menacé par la conversation. Et on passe vite alors en mode défensif, alors on complique davantage
la situation. Je répète cette phrase-là, à cause de nos blessures du passé, à cause de nos modes de fonctionnement, où on se sent menacé parce que l'autre nous a fait un reproche. Eh bien tout de suite, on a des instincts, on a des réflexes, et on se met tout de suite en mode défensif. Et on reprend vite nos vieilles habitudes. Et la conversation risque d'être un peu tendue. En fait, non. Il faut réaliser, si on fait ce cœur à cœur, comme je l'ai expliqué depuis le début, on est appelé à se sentir en sécurité avec l'autre, pas menacé. C'est pas parce qu'on dit une vérité, alors après, il y a façon de le dire, mais c'est pas parce qu'on dit une vérité qu'on doit se sentir diminué. On a tous des efforts à faire. Et un petit reproche, ça ne nous tue pas. Hein ? Ça tue l'orgueil.
Si l'autre personne a la sensation que vous cherchez réellement à la comprendre, alors elle vous laissera l'espace nécessaire, après coup, pour que vous puissiez vous exprimer. Autre chose, prendre l'habitude de s'exprimer en jeu. Tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas appris, qu'on devrait apprendre à l'école. Apprendre à s'exprimer en jeu. On est toujours en train de s'exprimer au tu. Tu es comme ça, tu es comme ça. Et on dit aussi que le tu, tu. Le tu, tu. Parce que dans le tu, on se sent jugé. Alors que le jeu, c'est je prends mes responsabilités. C'est comme ça. Je pense que, je ressens que. Ça change tout. Le pronom « tu », c'est un pronom accusateur. « Tu ne me comprends pas, tu es comme ta mère. » Très accusateur. Le problème, quand on se sent accusé, c'est que l'autre va tout de suite se mettre en mode défensif. Et on n'est plus alors dans une conversation constructive. On va rentrer dans une conversation où l'on va chercher à blâmer l'autre. De toute façon, toi, tu es toujours comme ça. Avec toi, c'est comme ça, c'est tout le temps toi. Et là, on est mal parti. Quand nous parlons en jeu, nous nous approprions les choses et on devient responsable de nos actions et de nos réactions émotionnelles. Je suis en colère et non pas tu m'as mis en colère.
Il y a une grosse différence, hein, entre dire « c'est de ta faute, c'est toi, tu me mets en colère, regarde ça !» Non, je suis en colère. Pas pareil. Faites l'effort de toujours maintenir une ouverture. Le défi de nos conversations est de gérer la tension qui peut monter tout d'un coup. On essaie de toujours maintenir la possibilité de comprendre l'autre en sachant que notre tour viendra pour pouvoir nous exprimer. Apprendre à gérer nos émotions, c'est ce que la Bible appelle la maîtrise de soi. La plupart des problèmes peuvent être résolus. Le problème, ce n'est pas le problème, c'est la résolution. Hein, je répète, les problèmes, on en a tous. Et jusqu'à la fin de notre vie, on en aura. Donc, le problème, on peut dire que ce n'est pas le problème, parce qu'il y aura toujours des problèmes. Le problème, c'est de trouver la bonne réponse au problème, de travailler ensemble. Ensuite, apprendre les langages de l'amour. Donc ça aussi, c'est quelque chose que les couples ne savent pas en général, s'ils n'ont pas fait de préparation au mariage. C'est qu'en réalité, nous avons chacun un langage d'amour. Et ce langage d'amour, il est important de le connaître parce que c'est comme ça que je vais me sentir aimé. D'accord ? Si je ne connais pas le langage d'amour de mon conjoint, je risque de vouloir lui faire plaisir de telle manière, telle manière, telle manière, et il ne va pas se sentir émotionnellement aimé. Parce que ce n'est pas son langage d'amour. C'est comme si on a un réservoir d'émotions qui doit être rempli, se sentir aimé. Donc vous prenez un vase, par exemple, et moi, je connais le langage d'amour de ma femme, donc je fais des actions, je fais les choses, je dis les choses, et je verse, et son réservoir émotionnel d'amour se remplit. Tout va bien. Mais si je ne connais pas le langage d'amour de ma femme, je risque de remplir à côté du vase. Et le vase reste vide. Et donc j'ai tapé à côté. Vous voyez ? Je vais donner un exemple. Par exemple, les cadeaux. Il y a des gens qui ne sont pas sensibles aux cadeaux. Donc si vous ne le savez pas, et que vous êtes sensible aux cadeaux, mais que vous ne savez pas qu'on a chacun son langage d'amour, donc vous pensez dans votre tête, « Ah, je vais offrir ça à ma femme, elle va être contente. » Donc, déjà, vous sortez les billets, donc déjà ça fait mal, si vous achetez un bouquet de fleurs, par exemple, vous dites, « Waouh, c'est cher, mais c'est pas grave, pour ma femme, je le fais. » Puis vous apportez le cadeau, puis elle, les fleurs, ça ne lui parle pas, et puis le cadeau, ça ne lui parle pas. Et là, elle vous dit, « Ouais, vache, 100 balles de partie. » Oh, ça fait mal. Et puis, vous ne comprenez pas, mais chérie, je ne comprends pas, je tasse des fleurs et tout ça. Et vous êtes député, vous dites, les femmes compliquées. Hein. Oh, pour satisfaire les femmes, c'est compliqué. Tu te rends compte, j'achète ça. Et là, vous racontez ça aux copains. J'ai acheté un bouquet de fleurs, ça m'a coûté la peau des fesses. T'es même pas contente. Langage d'amour. Développer notre intimité va nous amener à découvrir le langage d'amour de l'autre. Alors, il y en a 5 en réalité. Hein. Donc c'est très connu maintenant parce qu'il y a des bouquins qui sortent sur Gary Chapman, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Gary Chapman, c'est un docteur chrétien et qui est beaucoup sur la relation d'aide. Donc il a fait un bouquin là-dessus. Et donc vous avez les paroles valorisantes. Donc c'est quoi les paroles valorisantes? Eh bien votre conjoint, il a besoin que vous lui parliez d'une certaine manière et surtout de l'encourager, lui dire « je t'aime ». Tu es formidable, faire des compliments, tu es magnifique, dire du bien de son mari ou de sa femme aux autres devant lui ou elle. Donc, par exemple, votre femme, elle aime entendre des paroles valorisantes. Mais vous êtes un taiseux. Vous savez ce que c'est maintenant un taiseux? Donc ça va être compliqué. Parce que la femme, elle a besoin que son mari lui dise, chérie, qu'est-ce que t'es belle, chérie, je t'aime. Alors, on va voir tout à l'heure, mais le problème, c'est qu'il y en a, ils ont plusieurs langages d'amour, ils sont très gourmands. Donc il faut être bon, hein, il faut très très bien. Mais déjà, parole valorisante, vous voyez, ça peut être un sujet de transformation. Parce que des fois, vous avez le gars, bon, ça peut arriver chez les chrétiens, mais ça ne devrait pas arriver chez les chrétiens. Mais le gars, il dit, de toute façon, moi je suis comme ça. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Moi je parle pas, moi. Et la femme, elle est frustrée, parce qu'elle a besoin d'être valorisée. Et le gars, il fait, oh, bah, écoute, c'est pas de ma faute, hein, moi je suis comme ça. Et là, on voit qu'on est à côté de la plaque. On voit qu'on est à côté de ce que Dieu a voulu. Ouais, on est loin du puzzle. Non, le puzzle, il va t'usiner. Hein, tu vois, la pièce va être usinée pour que tu te mettes à faire des compliments à ta femme. Alors, peut-être qu'au début, tu seras un peu maladroit. Mais ça va venir. Et puis, quand tu verras que ta femme est heureuse, bah, tu verras que... Rappelez-vous le linge. Très important, le linge. Moi, le linge, c'était un bon point pour moi, parce que ma femme aimait les services. Donc, le linge, j'étais tranquille pour ma soirée. Hein. J'ai passé une bonne soirée. J'aimais bien le linge, moi. Les cadeaux. Langage des cadeaux. Offrir des fleurs. Donner des petites choses. Acheter un présent. Avoir une attention. Donc, ça aussi, si vous n'êtes pas habitué à faire des cadeaux, mais que votre femme, langage d'amour, c'est des cadeaux, eh ben, on va usiner la pièce. Et puis, vous allez craquer le porte-monnaie. Obligé. Le toucher physique. Prendre la main de l'autre, le serrer dans ses bras, l'embrasser quotidiennement. Ça aussi, ben c'est un langage d'amour. Donc à chaque fois, découvrir le langage d'amour de l'autre et s'adapter. C'est pas seulement que le découvrir. Les moments de qualité, consacrer du temps à l'autre en lui donnant la priorité. L'autre se sent important. Alors ça, c'est génial parce que pour le cœur à cœur, c'est top. Si la personne est là-dedans, ben là, on va y aller à fond dans le cœur à cœur. Et enfin, les services rendus. Servir l'autre de façon pratique. Arrêter ce qu'on est en train de faire pour satisfaire l'autre. Très, très important. Quand vous avez quelqu'un qui a un langage d'amour des services, allez pas dire « Attends chérie, je termine ce que je fais, j'arrive tout à l'heure. » Non, parce qu'elle se sent pas en priorité. Oui. Et pour nous les gars, ça va demander un sacré usinage. Là, la pièce, il va falloir qu'elle soit polie, hein, je te le dis. Parce que nous, c'est case après case, fichier après fichier, dossier après fichier. Alors, si mon dossier n'est pas fini, je suis bloqué. Je peux pas là, il faut que je finisse. C'est bloqué. La femme ne comprend pas. Parce qu'elle, la femme, nous, c'est les gaufres, en fait. Tu vois. Les gaufres, c'est les petits carrés. Donc, je suis dans un petit carré. Tant que mon petit carré n'est pas fini, je ne peux pas passer dans un autre carré. Je suis bloqué. La femme, on lui dit, c'est les pattes. Je fais ça, je donne à manger à mon petit garçon, je téléphone en même temps. Elle fait plein de choses en même temps. Tu vois. Et nous, on fait ça aussi. Comment on fait? Et nous, c'est pas possible. Donc, mais là, on va usiner. C'est-à-dire, quand elle dit « Chérie, j'ai besoin de toi !» Ah, tu vois, faut entendre, hein. C'est tout de suite. Donc, tu lâches ce que tu fais. Tu es en train de faire de la peinture. Pose ton pinceau. Mais il va sécher. Mets-le dans le liquide, ça va aller, ça va le faire. Ça. Lâche ce que tu es en train de faire, lâche. Mais je peux pas, il faut que je finisse ce que je fais. Non ! Et ça casse, hein. Ça casse bien. Donc ça, c'est le travail qu'on est amené à faire pour l'autre. Pour l'autre. Il y a du vécu là dans la salle. Le développement de l'intimité passe par la valorisation. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Pourquoi ? Parce que la plupart des couples commencent par valoriser la femme, le mari, dans les premiers temps. Parce que sinon, il y a un problème. Si tu te maries et puis que tu vois chez l'autre que des choses qui ne vont pas, à mon avis, tu as un problème. Donc si tu te maries, c'est que tu as trouvé chez l'autre pas mal de choses qui t'intéressaient. Mais, comme l'être humain, tu veux, il a plus de défauts que de qualités, en général, à vivre ensemble, qu'est-ce qui va émerger ? Les défauts. Hein ? L'amour rend aveugle et le mariage rend la vue. Et quand, si on n'a pas le cœur à cœur, si on n'a pas tout le, si on n'est pas équipé, hein, ben qu'est-ce qui va se passer ? La frustration va arriver et on va voir que les défauts des autres. Même plus de qualité. Même plus de qualité. Tu t'es marié, pourquoi ? Ah ben je sais pas. Voilà, franchement, que des défauts. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben on va lui dire tous ses défauts. À longueur de journée. Parce qu'on sent on sent l'amertume dans le cœur. On sent le venin qui est là. Hein ? Ben toi, de toute façon, toi c'est comme ça. Oh ben toi, toi. Et l'autre se sent minable. Il est dévalorisé. Et quand c'est dans le sens la femme vers le mari, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que l'homme, à la base, dans son cerveau, c'est un zorro. Et un zorro qui vole au secours de sa femme sur son cheval blanc. Et là, il vole au secours de sa femme. Mais là, sa femme, elle lui dit, t'es pas un zorro, t'es un zéro. Or, le pauvre, il abandonne. Il lâche l'homme et il dit, bon, ben, c'est bon. Fatalité. Et là, on est en plein dans la colocation. Mais bien comme il faut. Donc, apprendre à valoriser l'autre, c'est fondamental. Je m'engage à mettre en premier tes qualités et à prier avec toi pour les choses qui doivent changer. Voilà la bonne chose à faire.
Mais il faut en avoir conscience, parce qu'on n'en a pas conscience. Hein ? Il y a un thérapeute, c'est un thérapeute qui parlait. Il disait ceci.
Pendant les 15 premières années de ma vie conjugale, je ne voyais que les défauts de ma femme et mes besoins. Vous voyez ça ? Il voyait les défauts de l'autre et puis
ses besoins qui n'étaient pas satisfaits. Alors, en termes de frustration, ça ne devait pas être mal.
Mais depuis plus de 15 ans maintenant, je regarde mes défauts et les besoins de l'autre, les besoins de Teresa. Et notre vie de couple a été transformée.
Amen.
Vous voyez comment ça change tout ? Regardez les besoins de l'autre et mes défauts. C'est ça le mariage.
On a l'heure qui est. On va bientôt arrêter. Parce que ça passe.
Le défi, c'est de développer un comportement proactif. Le principe est de se concentrer sur les besoins de l'autre. Cette attitude nous rapproche de l'autre parce que chacun se sent aimé. Et quand on se sent aimé, on a envie d'aimer.
Amen.
Cette décision n'est possible que si nous renonçons à nos attentes irréalistes envers notre conjoint, si nous acceptons mutuellement nos limites humaines et nos imperfections. Arrêtez de se faire un film sur l'autre. Ça, on le voit dans l'identité en Christ, où on comprend que on a trop été en attente de l'autre.
J'aime bien le
saut,
là.
Eh oui. Parce que ce sont souvent nos besoins affectifs insatisfaits qui nous placent bien souvent en position de déception vis-à-vis de notre conjoint. On va arrêter ici pour ce soir et la semaine prochaine, on ira vers la sexualité pour comprendre comment la sexualité vient s'imbriquer dans l'intimité. Mais vous voyez déjà que développer tout cet écosystème affectif là, eh bien forcément que ça va faciliter la relation sexuelle. Et on le verra la semaine prochaine. La relation sexuelle, elle n'est pas déconnectée de tout le reste. Au contraire, elle est imbriquée dedans. Si on veut une vraie relation sexuelle épanouie, je ne parle pas seulement d'une relation sexuelle qui dure 5 minutes juste pour satisfaire des besoins. Je parle d'une relation sexuelle où les deux sont heureux de pouvoir s'unir sexuellement. Et on verra donc que nous sommes tripartites et que la relation sexuelle est avant tout spirituelle. Et qu'on est loin des concepts de ce monde, on est loin des concepts de cette société. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu avait prévu. Mais de prendre son temps, de faire plaisir à l'autre, parce qu'on va voir que la relation sexuelle, c'est la continuité de tout ce qu'on a dit. On a dit que dans le cœur à cœur, on cherche à faire plaisir à l'autre, et l'autre cherche à faire plaisir, à nous faire plaisir. C'est mutuel. Et bien on verra que dans la relation sexuelle, c'est la même chose. C'est d'abord le plaisir de l'autre, et vice-versa. Or, ce qu'on voit beaucoup, c'est que malheureusement, c'est souvent l'homme qui satisfait son plaisir sans tenir compte des besoins de sa femme. Parce qu'on verra que l'homme a un plaisir qui peut aller de 5 à 10 secondes, si on exagère, hein, et que la femme, elle n'aura un orgasme que si elle est dans un contexte très sécurisé et où on a pris le temps, et que là, elle peut exprimer son plaisir et avoir un orgasme. Donc on verra tout ça, c'est passionnant, hein, et on verra que là encore, il faut de la patience, il faut usiner le gars, tu vois, pour qu'il se calme un petit peu, qu'il prenne son temps, il n'y a pas le feu, et on verra que dans le chapitre du Cantique des Cantiques, et là, c'est tout un jardin à découvrir, et Dieu nous appelle à visiter ce jardin. Amen. Ça va? Ça a été? Ok. On se voit vendredi prochain pour la deuxième partie. C'est pour ceux qui peuvent. Ok. Là, on va rendre grâce à Dieu. Et puis, on va lui demander de nous raccompagner. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci encore pour cette belle soirée, Seigneur, où tu nous invites, Seigneur, à partager ce cœur à cœur ensemble dans le mariage, Seigneur. Que tu as prévu des choses extraordinaires dans le mariage. Alors Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur, pour vraiment comprendre toutes ces conceptions que tu nous as données, Seigneur, afin que nous puissions les mettre en pratique et afin que notre mariage soit un mariage épanoui, que nous soyons des chrétiens transformés, Seigneur, que le mariage nous sert aussi à cette transformation que tu attends de chacun d'entre nous, que par le fruit de l'Esprit, nous soyons transformés pour le bien de l'autre, Seigneur. Alors aide-nous à comprendre tout ça, et je te dis merci d'avance, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Raccompagne-nous maintenant dans nos demeures, Seigneur, en toute sécurité, dans le nom puissant de Jésus. Alors, avant de se quitter, juste pour vous dire, donc là, j'en parlerai la semaine prochaine, parce que je donnerai une petite feuille comme ça, et en fait, c'est repartir sur des bonnes bases. Bon, c'est juste 4 petits diapos qui reprennent un petit peu tout ce qu'on a vu. Parce que je peux comprendre que ce que vous entendez, pour la plupart, c'est nouveau. Hein, des choses que vous n'avez jamais entendues, parce que vous n'avez pas fait de préparation au mariage. Et que donc, vous avez plutôt envie de dire, mais on commence par où? Il y a du boulot. Hein, donc, j'ai donné 5 petits diapos comme ça. D'abord, entrer dans le processus du pardon. C'est très important. Parce que tous les deux, on a fait des loupés. Hein, c'est normal. Donc, on ne va pas y revenir tous les 5 minutes. Ça va briser l'élan qu'on veut donner à notre couple. Donc, c'est d'abord de passer par le processus du pardon. Chacun est appelé à s'excuser, à demander pardon pour son comportement, pour ses paroles, ses pensées, ses manquements. Ensuite, je propose de reformuler l'engagement. C'est-à-dire, c'est comme si on faisait un switch, hein, et puis qu'on décide de repartir sur des nouvelles bases. Nous sommes appelés à nous donner l'un à l'autre. Je ne suis plus ma priorité c'est toi. Donc c'est un engagement qu'on prend. Mettre en priorité le cœur à cœur, j'ai besoin de connaître tes besoins afin de m'efforcer à les satisfaire. Je m'engage à te valoriser. Et un petit tableau pour finir où on met mes besoins, l'autre met ses besoins et on trouve les solutions ensemble. Donc c'est un petit aide, comme ça, pour que, si on fait du cœur à cœur, pour les premières fois, on n'est peut-être pas assez habitué, au moins on a une base, et on dit, voilà, qu'est-ce que tu aimerais, chérie, parce que, voilà, j'avais pas tout compris, mais j'ai envie de changer, j'ai envie que notre mariage reparte sur des bons rails, j'ai pas envie d'un mariage de colocation, encore moins qu'on divorce, je veux juste que notre mariage prenne un autre essor, où tu te sens bien dans ce mariage-là, et où je me sens bien dans ce mariage-là. J'ai envie de dire, redonner du sens à notre mariage. Et vous savez quoi? Il n'est jamais trop tard.
Amen.
Ça, c'est ce que j'ai appris. Jamais trop tard. Beaucoup de couples sont repartis après avoir connu des moments difficiles. Vous savez, quand les deux veulent réussir leur mariage, il n'y a pas grand-chose qui peut empêcher ça. Surtout quand on est avec le Seigneur.
Amen.
Amen. Bonne soirée et à vendredi.